Alors, Raphaël, la Corée du Nord veut montrer le meilleur profil, si on veut, si on peut parler ainsi, en vue du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, Pyongyang, qui aurait autorisé aujourd'hui la libération de prisonniers américains.
Oui, et là, écoute, les sceptiques vont dire qu'encore une fois, c'est une question de relations publiques. On veut se faire bonne presse à l'international à l'aube de ce fameux sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Les gens moindrement, un petit peu plus optimistes que ça, vont voir là-dedans un déblocage important. Parce que là, ça fait des semaines, on s'en est parlé à combien de reprises, justement, depuis les dernières semaines, Paul, de toutes les concessions théoriques qui avaient été données par Pyongyang. On va essayer de s'arranger pour avoir une réunification familiale entre les deux Corées. On va essayer de négocier une fin formelle à la guerre de Corée. On va freiner tous les tests de missiles, etc., etc. C'était toujours des engagements rhétoriques pour des choses qui allaient être faites éventuellement. Là, ce qu'on a aujourd'hui, je te dirais que c'est un premier gros déblocage concret, parce que là, c'est une prise d'action réelle, c'est-à-dire que Pyongyang qui annonce la relâche, en fait, la libération de trois prisonniers qui sont aussi des citoyens américains, qui étaient emprisonnés depuis des années dans, écoute, des prisons, pour pas dire des camps
nord-coréens. Oui, des camps de travail forcé.
Exactement. Oui. Et donc, on les relâcherait. Et c'est sûr que là, ça risque, encore une fois, d'ajouter, je te dirais, oui, à la bonne volonté des deux côtés, mais aussi à la pression qui va être liée à ce sommet-là. Parce que là, on se dit, s'il y a une telle perche qui est tendue, c'est parce qu'on veut vraiment régler la crise.
Mais on en a parlé un peu plus tôt, c'était d'ailleurs la chronique de Norma Lester, c'est que le nouveau secrétaire d'État, Mike Pompeo, a tapé sur la table aujourd'hui en disant qu'il va falloir que ça se fasse très vite, la dénucléarisation.
Je savais. Ça se ramasse des bloopers, ça. T'en es conscient.
À 5h30, oui, c'est ça.
Dénucléarisation.
Non, sérieusement, ouais. Il disait aujourd'hui, il va falloir que ça se fasse très vite. Mais des fois, à trop vouloir bousculer un pays qui déjà change un rythme incroyable, on risque peut-être de tout gâcher.
C'est sûr. En même temps, je serais tenté de te dire que la rhétorique salée, là, puis pousser Little Rocketman dans le coin, ouais. À date, ça semble donner des résultats.
Il y a ça. Et sans doute, les sanctions économiques. En tout cas, j'écoutais un expert sur la Corée qui disait ça, que les sanctions économiques ont fini par faire mal.
Et oublie pas, Paul, la Chine.
La Chine joue un rôle dominant.
Et pourquoi la Chine joue un tel rôle? Parce qu'il n'y a pas une administration américaine qu'on a eue de nos vivants récents, tout au moins, qui a mis autant de pression sur la Chine comparé à celle de Trump. Il y a ça aussi, là.
Alors, tout ça là, fait que, bon, peut-être que le moment est propice.
Peut-être.
En tout cas, le président Trump a aussi son agenda domestique et il remet à nouveau en question la légitimité. Aujourd'hui, là, je commence un rhume, ça aide pas. La légitimité de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller.
Et je te demanderai même pas comment il l'a remis en question, avec évidemment son médium favori.
C'est-à-dire Twitter.
Twitter. Et donc, une série de tweets assez enflammés, on connaît le style, dans lesquels notamment Donald Trump qualifie tout l'épisode de l'enquête Mueller de triste chapitre dans l'histoire de la justice américaine. Il parle même de système truqué. Et il ajoute, et ça c'est important, je cite, « À un certain moment, je n'aurai pas le choix d'utiliser les pouvoirs accordés au président et de m'en mêler. » Fin de la citation. T'as pas besoin de lire très profondément entre les lignes pour comprendre ce que ça veut dire. Là. Ouais. C'est que si ça continue de s'étirer, puis de s'étirer, puis de s'étirer, si ça continue à jouer dans les coins qu'on commence à aller... On continue d'aller essayer de coincer des gens comme Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump, ben le principal intéressé, c'est-à-dire le président des États-Unis, va peut-être royalement perdre patience et congédier Mueller. Écoute, ça fait des mois qu'on évoque la possibilité, mais je te dirais que là, ça fait quelques semaines que Donald Trump, personnellement, fait tout pour alimenter cette controverse-là. Et
mais il le dit à haute voix, mais il ne le fait pas. On dirait
il ne le fait pas pour l'instant.
Il n'ose pas franchir ce pas.
Non, parce que tous s'entendent pour dire, incluant les leaders de son propre parti, que ça serait plus que franchir une ligne, ça serait probablement franchir une ligne de non-retour pour sa présidence. Écoute, ouais. Ça serait extrêmement grave et extrêmement porteur de conséquences. En même temps, je me permets, Paul, de te faire un parallèle avec ce qui se passe au niveau de James Comey, l'ancien directeur du FBI, on s'en est parlé ça aussi à quelques reprises, là, il est en tournée médiatique, une espèce de tournée médiatique qui ne semble jamais se terminer.
Pour son livre.
Pour son livre. Et il a déclaré au courant des dernières heures que, selon lui, Hillary Clinton était quelqu'un qui était profondément lié à l'état de droit. Autrement dit, quelqu'un qui croyait profondément à l'état de droit. Donc, s'il y avait à choisir entre Trump et Clinton, sans répondre directement à la question, bien, il a répondu de façon indirecte en disant qu'il aurait préféré une présidente Clinton. Écoute, je me disais en entendant ça, Paul, mettons que tu te mets à la place de Donald Trump. Tu es le nouveau président des États-Unis et tu es un directeur du FBI et tu as son numéro 2 qui semble avoir certaines affinités partisanes. Dans ce contexte-là, je n'excuse pas les allégations, évidemment, d'abus de justice, d'obstruction de la justice, mais quand Donald Trump aurait demandé à James Comey s'il lui serait loyal, ça pouvait être dans ce contexte-là aussi. C'était peut-être pas nécessairement...
Et d'autant plus que la conjointe de James Comey était très proche de l'organisation d'Hillary Clinton.
Paul, la famille entière de James Comey, tous ses enfants et sa propre épouse ont démontré dans la rue le lendemain de l'inauguration de Trump contre Trump. Ça, c'était des mois avant le congédiement de James Comey. C'était pas par rancune personnelle. Là.
Oui.
Et le numéro 2 du FBI, le bras droit de James Comey, sa femme est également une candidate démocrate très proche des Clinton. Fait que tu te mets dans la peau du type. Encore une fois, ça n'excuse pas le comportement.
Non.
Mais disons que des nuances peut-être qui n'ont peut-être pas été portées par M. Comey.
C'est la différence entre, je dirais, le système américain de relations dans l'administration politique avec nous. Prenons un exemple. Si, je ne sais pas, Martin Prudhomme, qui a deux chapeaux à la fois là, au SPVM et puis à la Sûreté du Québec, avait une conjointe qui travaille pour un parti politique. Peu importe si ce soit celui au pouvoir ou non, déjà, immédiatement, tous les systèmes d'alerte auraient sonné en disant « ça se fait pas ».
Exact.
Il faut qu'il y ait une séparation entre le travail du directeur de la police, entre guillemets, nationale. Et il ne peut pas faire part de ses convictions politiques. Il faut se garder une gêne.
Et en plus de...
Mais aux États-Unis, on le fait pas.
Ben, du moins, on le faisait pas jusqu'à maintenant. Et en plus de ça, lorsque tu parles encore une fois du numéro 2, de l'ex-numéro 2 du FBI, qui lui aussi, on le rappelle, a été congédié, a été limogé.
Oui.
Dans son cas, on parle de quelqu'un qui s'est parjuré devant des agents fédéraux. Fait que tu sais, quand Donald Trump remet en question l'intégrité des chefs de file du FBI, écoute, c'est sûr que c'est risqué de s'en prendre de plein fouet aux institutions comme le FBI, ne serait-ce que d'un point de vue démocratique. Mais en même temps, tu regardes le comportement de Comey, de McCabe, il y a des sérieuses questions qui se posent.
Alors, parlons maintenant de celui qui s'est encore une fois placé un pied directement dans la bouche, le rappeur Kanye West. Notamment sur un commentaire absolument insensé sur l'esclavagisme.
L'esclavagisme. Je le cite, il lâche ça en plein milieu d'une entrevue, c'est sans queue ni tête, je le cite. « Quand vous entendez parler de l'esclavage qui aurait duré 400 ans, trois petits points, 400 ans, pour moi, ça ressemble davantage à un choix. » Fin de la citation. Comme si l'esclavage...
était un choix.
Est un choix. Évidemment, on rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec le personnage que Kanye West lui-même est afro-américain et avait lui particulièrement fait parler de lui il y a quelques jours à peine lorsqu'il était sorti dans une espèce de tweet surréel dans lequel il avait professé son amour pour Donald Trump. Et là, il en rajoute. Au final, Paul, je vais te dire un petit peu ce que je t'avais dit l'autre fois, la première fois qu'on en avait parlé en fait. Kanye West a le droit de penser ce qu'il veut, a le droit de dire ce qu'il veut. En même temps, comme citoyen, devrait avoir le droit de garder en tête que lorsque tu es une vedette du showbiz, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es un génie.
Non. Et il y a aussi une autre option que tu as oubliée.
D'accord.
C'est que c'est l'option de garder le silence.
C'est un droit, effectivement.
C'est un droit. Avant de dire une bêtise, c'est un droit partout. C'est un droit universel de garder le silence.
Quelle belle leçon, Paul.
Merci. Moi,